Eh bien, bonjour à toutes et à tous, vous écoutez FL Radio, ici Cinémaniac sur la fréquence Flandre Lys. Fans de cinéma ou de séries, c'est votre rendez-vous hebdomadaire. Et pour cette émission, je suis tout seul, effectivement, j'ai l'habitude de dire que je ne suis pas tout seul, mais aujourd'hui, je vais m'occuper également de la série de la semaine. Vous allez voir, je vais vous parler d'une série qui est culte. Mais avant tout, petit sommaire de cette émission, on va parler de des avant-premières du cinéma Megarama, le film du Ciné-Club, ainsi que les suivants qui vont arriver, et forcément la série de la semaine. Alors, pour les avant-premières du cinéma, il y en a une qui arrive très 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 prochainement, c'est Juste une illusion, le vendredi 10 à 21h. C'est un film qui raconte globalement une histoire qui se passe en 1985. Vincent, bientôt 13 ans, vit dans les banlieues parisiennes, dans une famille de la classe moyenne. Entre un grand frère distant et ses parents en conflit permanent, alors qu'il n'est déjà plus un enfant et qu'il n'est pas encore un adulte, nous allons partager ses questions, ses doutes sur l'identité, l'amitié, la famille, la religion, le désir et les premiers élans amoureux. C'est un petit film de un peu moins de 2 heures, dramatique, comédie. On va retrouver notamment Louis Garrel et Camille Cotin. Alors c'est un film qui a l'air très intéressant pour le coup. J'ai vu la bande-annonce et je vous propose de vous la faire écouter.
Informatisation de l'entreprise.
J'écoute.
Sandrine.
Oui.
Apparemment, c'est pour vous.
Allô ?
Raccroche le téléphone, je te balance par la fenêtre.
Je suis désolée.
Raccroche !
Mais Marie, il me dit qu'il m'a balancé par la fenêtre !
Eh ben, qui te balance ? Non, mais on habite au premier, c'est pas très haut.
Oh. Bonsoir.
Salut, maman.
Qu'est-ce que tu fais ?
Un ping-pong.
Je crois qu'au niveau parfum, on est pas mal, hein ? Ça s'appelle comment ?
À moi. Tu lui as dit ?
J'ai vu papa aujourd'hui, il était tout seul au café.
Il est au chômage, papa.
Vous êtes chez coiffeur ?
Ah, vous êtes observateur ?
Bah, écoutez, Sandrine, permettez-moi que je me permette.
Voilà, vous y allez en douceur.
Voilà. Oui, bon, monsieur Berger, je crois que ma femme a compris le principe.
C'est pas possible, c'est pas célèbre.
Non, c'est pas célèbre.
Bah ça va !
Dans la vie, faut faire des choix.
C'est que moi, je suis pas vous.
Tu ne parles pas comme ça.
Je te parle comme je veux.
J'aurai jamais ce job, je vais rester secrétaire toute ma vie, puis c'est tout.
Pourquoi on vit et après on meurt ?
Je sais que je viens de vous dire que vendredi 10, il y a donc cette avant-première de Juste une illusion. Mais il y a plus important vendredi 10 parce qu'il y a surtout le prochain Ciné-Club. Alors on rappelle, hein, vendredi 10 à 20h30, cette fois-ci, Striptease intégrale. Le Ciné-Club à 5€ animé par Thierry Elouane. Alors Striptease arrive enfin au cinéma. Hein, 6 histoires où se côtoient l'humour, parfois de l'humour noir, de l'absurde ou de la poésie, de l'amertume, du désespoir, joyeux un peu de notre époque. Alors c'est interdit aux moins de 12 ans, c'est sous format un peu documentaire pour ceux qui connaissent la série des Striptease, c'est quand même vachement culte, et ils arrivent donc au cinéma avec Striptease intégrale. Je vous propose de se remettre la bande-annonce.
Les amis, j'ai besoin de vous. Soit la blonde ou la brune. C'est Peep My Hair, ici à Dubaï.
Qu'est-ce que c'est cet endroit où tout le monde est plus belle que moi ?
T'es pas anxieux un peu?
Tu consultes un médecin et tu t'attends à ce qu'il trouve un truc, non?
Pas spécialement.
Je vous emmène avec moi dans les coulisses de mes dents.
Alors, il y a des effets qui sont volontaires, mais ceux-là, ils ne le sont pas.
J'ai vendu un appartement ce matin. 200 000 euros. Dieu est grand.
Ah ouais.
La pécheresse, ça peut pas être pour vous, mon père, parce que quand même, ça se fait pas.
Non, mais madame, là, vous êtes dans la nuisance. T'es chiant pour ton entourage.
Mais qu'est-ce que c'est que cette famille, toute décanillée par un cancer du foie ?
Il y a des critiques, il y en a des positives, il y en a des négatives.
Ah ouais. Je t'emmerde, hein, c'est mon pognon que j'ai mis dans ce truc.
Bah, tu connais, hein, les gens, une fois que tu réussisses dans la vie, ils te jalousent fortement.
Il vaut mieux être seul que mal accompagné.
Non, mais t'es pas trop fatigué de moi, quand même. Tu m'aimes ?
Parce qu'on est refait, qu'on n'est pas simple.
Il y a une descente de chameau.
Les gars It's out of my control.
It's dead.
Ça nous.
Et comme dirait Shakespeare...
I'm not Cassie, who I am.
Ah, quand on est con, hein.
C'était donc la bande-annonce de Striptease Intégrale, on rappelle, un vendredi 10 à 20h30 pour ce ciné-club. Et si jamais vous l'avez raté comme moi et que vous souhaitez le rattraper comme moi, laissez-moi vous présenter un petit peu plus le dernier ciné-club qui est passé, qui s'appelle Les Années de Plomb. Alors, Les Années de Plomb, c'est vraiment le genre de film qui te laisse un peu avec... un peu seul avec ce que tu ressens finalement. C'est réalisé par Margaret von Trotta et ça se déroule dans l'Allemagne des années 70 avec en toile de fond cette période tendue marquée par le terrorisme, les fractures politiques, mais le film ne s'accroche jamais vraiment à ça de manière frontale. Ce qui compte ici plutôt, c'est une histoire beaucoup plus intime, celle de deux sœurs, Marianne et Julianne, qui est d'ailleurs le titre du nom en anglais, enfin le titre du film en anglais, pardon, toutes les deux marquées par le passé nazi de leur pays, mais qui ont choisi deux chemins totalement opposés pour y répondre. L'une passe par la parole, le journalisme, une forme de lutte un peu plus posée, et l'autre bascule dans quelque chose de beaucoup plus radical, jusqu'à la lutte armée, une lutte presque révolutionnaire. Et le film ne cherche jamais vraiment à trancher entre les deux. Il ne te dit pas vraiment qui a tort, il te montre juste que bah, ça crée quelque chose dans la relation qu'elles ont entre les deux, notamment bah, voilà, une petite distance, une fracture, il y a quelque chose qui se fissure petit à petit, sans explosion spectaculaire, mais de manière presque inévitable. D'ailleurs, c'est assez fort de voir que la violence en elle-même n'est quasiment jamais montrée. On reste toujours à côté, dans des souvenirs, dans l'attente, dans les conséquences, comme un trou dans le récit, un vide que personne n'arrive jamais vraiment à combler, et ça rend le tout encore plus troublant. Alors le film bascule encore plus quand Julianne apprend le décès de sa sœur en prison. Officiellement, c'est un suicide, mais elle n'y croit pas vraiment. Et à partir de là, il y a quelque chose qui va changer. Ça devient presque une obsession entre culpabilité, la culpabilité de ne pas l'avoir suivie, de ne pas l'avoir soutenue, et ce besoin de vérité. Elle va s'enfermer dans cette quête pour comprendre ce qui s'est vraiment passé. Et là, le film devient encore plus intérieur, presque étouffant finalement. On sent qu'elle est coincée, mais pas physiquement, plutôt mentalement en fait au final. Ce qui marque vraiment, c'est la manière dont tout ça est raconté. Il n'y a pas vraiment de grands effets, pas de scènes appuyées pour forcer l'émotion. Au contraire, tout est dans la retenue, des regards, des silences, les discussions qui tournent court. On sent que quelque chose se brise, mais on sent vraiment jamais que ce soit clairement formulé. Et même dans la structure, le film est un peu déroutant. La chronologie est éclatée, les souvenirs viennent se mélanger au présent sans prévenir. Par moments, tu ne sais même plus si c'est Julianne ou Marianne qui se souvient, comme si leurs deux vies et leurs deux trajectoires finissaient par se confondre. Le duo Jutta Lampe et Barbara Sukowa fonctionnent parfaitement dans cette idée-là. Leur jeu est hyper sobre, presque froid par moments, mais ça colle vraiment bien à l'ambiance du film. Il n'y a pas de débordement inutile, tout est continu, et c'est justement ça qui rend certaines scènes vraiment fortes. On sent qu'elles sont liées, même quand tout les oppose, comme si au fond elles étaient deux versions d'une même personne. Le film joue beaucoup là-dessus d'ailleurs, hein, sur cette idée de miroir, de double avec des plans où elles se font face, ou même où ça se superpose, notamment une super scène, en tout cas une scène que j'ai adorée qui se passe dans la prison, où vraiment il y a cette espèce de miroir qui reflète les deux visages, et les deux visages se confondent, c'était super intéressant. Ce que le film fait de bien aussi, c'est qu'il ne donne jamais de solution, il ne cherche pas à simplifier les choses, il pose simplement des questions et met en face à ses choix et ses convictions qui s'opposent. Et justement, il laisse le spectateur avec ça, jusqu'où on peut aller pour ses idées, qu'est-ce qu'on est prêt à sacrifier, et surtout qu'est-ce que ça détruit autour de nous, quels sont les impacts de nos idées. Au fond, c'est pas juste un film politique, c'est surtout un film sur le poids du passé, sur une génération qui essaye de comprendre comment elle en est arrivée là, et sur une Allemagne encore profondément marquée par son histoire. À travers ces deux sœurs, c'est presque tout un pays qui apparaît divisé, hanté, incapable de vraiment se reconstruire sans douleur. Il y a quelque chose d'assez triste qui s'installe au fur et à mesure, presque silencieusement, comme une impression que tout est déjà cassé depuis longtemps et qu'on essaye juste de comprendre comment ça s'est brisé. C'est pas forcément un film qui est très facile, ni un film qui cherche à plaire. Bon, alors, quand je dis que c'est pas un film facile, on s'entend, hein, c'est un film qui est quand même en allemand. D'habitude, quand le film est en version anglaise, je peux me rattacher un petit peu à ce que j'entends, etc. Là, bon, en allemand, je n'avais pas d'autre choix que lire les sous-titres, donc je suis passé peut-être à quelques moments à côté de certaines choses. Mais il a surtout cette capacité à rester en tête et à revenir après coup, comme si on avait assisté à quelque chose de très intime, un peu fragile, et qu'on gardait une trace sans trop savoir quoi en faire. C'est justement ça qui fonctionne aussi bien dans ce film. Et pour le coup, j'ai bien aimé. Et je suis un peu triste d'avoir raté le ciné-club en salle, parce que bien que je l'ai rattrapé chez moi, ça n'a pas la même ambiance, et je pense qu'au cinéma ça devait être encore plus intéressant. Donc On ne rate pas le prochain Cineclub, sinon on risquerait d'être déçu. Et on rappelle, c'est vendredi 10 à 20h30. Et moi, je vous propose une petite pause musicale avec Jewel Hussein, Ike Bukuro.
Yes. On a payé ce qu'il en coûte, si nos vies se ressemblent plus, c'est que j'ai réussi mon coup. Je suis dans un yak une queue, prédiqué beaucoup haut. Des refs assis en tailleur et le sirop coule. Ils laissent des silences courts pour mieux gaver les types malléables. De piches sans album, tu la fermes quand t'as rien à dire. C'est plus facile pour baiser et je sais joindre l'utile à l'agréable. C'est toujours kid à la réal, on veut sortir la tête de l'eau comme tous les amphibiens. Regarde comme mon flow épouse la prod. Je connais des gens qui auront pas le luxe de se marier aussi bien. On fait pas le même usage de plateforme. J'écoute pas la musique qui plafonne. Tous ces rappeurs te disent la vérité, c'est des mecs du milieu. Parce qu'ils sont pas nuls mais sont pas forts. Je réponds pas à croire que j'ai pas de fun. En vrai c'est délicat, je connais des refs qui ont la vision. J'en connais qui sont pensés tellement riches, dédicat. Y'a que 3-0 sur ton chèque, je dédicate. Y'a que les places que je grave sur la pochette que je dédicace. Je supprimerais beaucoup si je devais trier. Leur langage est soutenu comme une daronne après la perte d'un fils ou un flic meurtrier. Vos MC meurent pliés dans le stud et les corps finissent sous bandelettes. Check, ils font que baver, c'est à croire qu'ils viennent seulement te naître. Y'a toujours un nouveau snake, tous les jours un traître, tous les jours un dick fait semblant de l'être.
On vient de s'écouter Jewel Hussein avec son dernier morceau Ike Bukuro. Il prépare d'ailleurs un EP qui tourne beaucoup autour de cette thématique justement du Japon. Et on va enchaîner avec l'actualité du Cineclub parce que oui, je vous ai dit qu'il y avait Striptease intégral le vendredi 10 à 20h30, mais je ne vous ai pas encore parlé de tous les autres. Et justement, on a eu les prochains qui vont arriver et on va commencer avec Pluie Noire le vendredi 22 mai à 20h30. Où Shigematsu Shizuma, qui vit avec sa famille dans un village près de Fukuyama, se retrouve à Hiroshima avec sa femme et sa nièce juste après le bombardement atomique dévastateur, une tragédie qui a cruellement coûté la vie à des milliers de personnes et qui a marqué à tout jamais la dure existence des survivants. Forcément, vous vous doutez bien, c'est un film qui va parler histoire, qui va parler guerre et qui dure un peu plus de 2 heures. Et on enchaîne avec Summer Break le vendredi 10 juillet à 19h45. Où là, Carl Denham, un cinéaste en quête de notoriété, prépare un tournage dans les mers du Sud. Il embarque avec toute une équipe au bord du Venture. Bien que les acteurs soient persuadés de tourner un film d'amour et d'aventure, le réalisateur espère secrètement que le voyage conduira à la Skull Island, l'île du crâne, une terre inexplorée où on dit que les indigènes adorent les créatures mystérieuses et terrifiantes. Les foules, pense-t-il, se presseront pour découvrir les images qu'il rapportera de son voyage. Andaro, artiste de musical au chômage, a été embauché au dernier moment pour pallier à la défection de l'actrice principale. C'est un genre aventure, drame, un peu action. Le film est un peu plus long, il fait à peu près 3 heures et c'est de Peter Jackson. Et ensuite avec un film donc très très intéressant, Le Bon, la Brute et le Cinglé. Là, ça se déroule plutôt dans les années 30 en Mandchourie. Le cinglé vole une carte au trésor à un haut dignitaire japonais. La brute, un tueur à gages réputé, est payé pour récupérer cette carte. Et le bon veut retrouver le détenteur de la carte pour empêcher la prime. Un seul parviendra à ses fins. S'il réussit à anéantir l'armée japonaise, les voyous chinois, les gangsters, les coréens et ses deux adversaires, c'est un action-aventure-comédie-western de 2 heures réalisé par Kim Ji-woon. Ensuite, on aura un film qui, là, pour le coup, personnellement, m'intéresse énormément. J'en ai entendu beaucoup, beaucoup de bien. C'est Do the Right Things. Ça se passe à Brooklyn. C'est littéralement le jour le plus chaud de l'année. Mookie, un jeune afro-américain, est livreur à la pizzeria du quartier et est tenu par Sal et ses deux fils, d'origine italienne. Chacun va qu'à ses occupations, mais la chaleur estivale va bientôt cristalliser les tensions raciales. C'est un drame de 2 heures réalisé par Spike Lee. Et pour le coup, autant je ne connais pas forcément trop les autres films et je n'en ai pas beaucoup entendu parler. Autant celui-là, on m'en a dit énormément de bien, donc j'ai vraiment hâte d'aller le voir. Ensuite, on retrouve Waterworld. À la suite d'une catastrophe écologique, la Terre est recouverte par les océans. Les rares survivants vivent sur des atolls artificiels, rêvant donc d'une contrée mythique, Dryland, recouverte de vastes forêts et de profondes vallées. C'est un film d'aventure action-science-fiction de 2h16, réalisé par Kevin Reynolds. Pareil, ça a l'air d'être un film très intéressant, sûrement autour de la politique écologique, etc. Et je vous propose donc qu'on s'écoute maintenant l'introduction pour la série de la semaine. Et là, pour le coup, c'est moi qui m'occupe de vous parler de cette série, parce qu'elle n'est pas là, c'est une série que j'affectionne tout particulièrement. Pour les amateurs, vous aurez probablement reconnu l'intro de The Office. Alors pourquoi The Office ? Eh bien, tout simplement parce que c'est une série que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps, que j'ai adoré et que je me suis regardé sur 2 semaines à peine. À la base, il n'y a rien de très spectaculaire. Hein. C'est une entreprise de papier, des employés, un bureau assez banal, mais en réalité, tout repose sur les personnages et un mélange hyper particulier entre humour, gêne et attachement. Alors le début paraît un peu rude, hein, surtout avec un côté très cringe et très assumé, notamment Steve Carell dans son rôle de Michael Scott est parfois même insupportable au début, lourd, maladroit, souvent à côté de tout, et puis petit à petit le regard change et on commence à voir un peu toute la solitude derrière le personnage, le besoin constant d'être aimé, et un personnage qui devient presque touchant. Et c'est là que la série devient vraiment forte, parce que elle ne se contente pas vraiment juste de faire rire, elle crée un vrai lien entre les personnages et le spectateur. Et tout le reste suit justement cette logique, notamment avec des personnages comme Jim et Pam, où c'est une relation simple, naturelle, qui se construit doucement sans jamais être forcée. Dwight, lui, est complètement excessif, presque absurde, mais il a une sincérité qui le rend indispensable. Et même des personnages secondaires existent vraiment, et chacun a sa place, son moment et son petit moment d'humanité. Alors le format, c'est un format mockumentaire, pour ceux qui n'ont pas, c'est un peu faux documentaire, c'est-à-dire que c'est vraiment des plans, les plans ça bouge, c'est très dynamique, ça suit un peu les personnages, etc. On a même des fois les cadreurs et les perchemins, etc. qui apparaissent dans le plan, je trouve ça assez marrant. Et forcément, ça joue énormément, hein, les regards caméra, les silences, les réactions à chaud, ça donne cette impression d'être dans le bureau avec eux, comme un peu un genre de témoin invisible. Il n'y a pas besoin de grandes intrigues ou de rebondissements permanents, c'est le quotidien qui fait tout. Le travail, les relations, les petits moments gênants ou les moments sincères, tout ce qui paraît banal devient d'un seul coup très intéressant. Et ce qui est fort, c'est de voir comment la série évolue. Elle commence notamment par une comédie un peu froide, très basée sur le malaise, héritée directement, pour ceux qui ne le savaient pas, de la version originale britannique de The Office, créée par Ricky Gervais et Stephen Marchand. Et en fait, cette version-là, c'était plus sec, plus cynique. C'est un humour anglais, quoi. Pour ceux qui connaissent un peu, c'est un peu inconfortable. La version américaine, elle a pris le concept et l'a rendu plus humain, plus chaleureux, sans forcément perdre l'ADN de base. Mais du coup, ça se ressent beaucoup sur la première saison. Ce qui fait que pour beaucoup de personnes, la première saison est généralement vue comme la moins bonne parce qu'elle copie trop sur le The Office US. Mais franchement, ça vaut le coup de s'accrocher après la première saison, parce que la saison 2, 3 et ce qui va suivre deviennent vraiment beaucoup plus intéressants. C'est aussi probablement une partie de ce qui explique son succès énorme, hein, parce qu'elle a réussi à transformer un concept très spécifique en quelque chose de beaucoup plus universel. Son impact est énorme, hein, la série a notamment marqué toute une génération, mais elle a aussi influencé énormément de comédies derrière, et le style mockumentary s'est imposé un peu partout. Et surtout, le concept a été adapté dans plein de pays. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, et ça, pour le coup, c'est une info que j'ai appris il n'y a pas si longtemps, mais il y a eu The Office en France, ça a existé. En France, on a eu donc cette adaptation qui s'appelle Le Bureau, preuve donc que le format fonctionne partout et qu'il repose sur quelque chose de simple, observer des gens dans leur quotidien. Et apparemment, alors je ne l'ai pas vu, la série Le Bureau, mais apparemment, les gens en disent plutôt du bien, même si ça n'a pas duré longtemps, je crois qu'il n'y a eu qu'une ou deux saisons. Mais les gens en disent du bien, donc ça reste intéressant, et pourquoi pas aller regarder et vous faire un retour. Et même aujourd'hui, des années après, The Office US reste une référence, pas forcément parce qu'elle est parfaite, parce que bah, y a des saisons qui sont moins intéressantes, hein, comme on disait, la une reprend beaucoup de The Office UK, ou même les dernières saisons avec d'autres retournements de situation, je vais pas vous spoiler si vous l'avez pas vu, mais les dernières saisons sont peut-être un peu en dessous, même si ça reste très bien. Il y a aussi des moments où ça a tendance à s'étirer un peu, mais ça crée quelque chose d'assez rare, parce qu'on a un vrai attachement envers les personnages, et on passe justement beaucoup de temps avec ces personnages, on apprend à les connaître, à les comprendre, et quand ça s'arrête, il y a un petit moment étrange, comme si on quittait un espèce d'endroit familier. Au final, The Office, c'est un peu plus qu'une série qui est juste drôle, c'est aussi une série sur les gens, sur leurs défauts, leurs tentatives un peu ratées, leurs moments sincères, et peut-être aussi... une série très honnête. Vous allez voir que dans la série, il y a énormément aussi de problèmes, tout ce qui va être problème de financement, etc. Enfin bref, il va y avoir un milliard de galères. Et c'est une des rares séries où, pour le coup, j'ai vraiment rigolé devant. Quoi. Il y a des passages qui sont très, très drôles et très intéressants. Et pour terminer un peu après cette émission, je vous propose qu'on passe donc au film que je vais vous présenter. Alors là, pour le coup, le choix sur lequel je me suis attardé est un peu particulier parce que c'est à l'inverse des films qu'on a pu faire la dernière fois, comme la première fois, j'ai fait des films qui sont bien notés, que je trouve mauvais. Après, on a fait des films comédies françaises que j'ai trouvé cool, etc. Là, on va faire quelque chose d'assez différent. Je vais prendre un film qui, pour le coup, n'est pas forcément très, très bien accueilli. Ce n'est pas un des films qui est les mieux notés de l'histoire du cinéma. Et pourtant, je trouve que c'est un film qui est très sous-coté. Je le trouve très bien, même excellent. Et pourtant... je vois beaucoup d'avis négatifs sur le film, donc je vais défendre mon avis et je vous propose d'écouter la bande-annonce.
J'étais un sacré bon artiste, illustrateur de la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, j'arrive à peine à écrire mon nom.
J'ai appris ce qui vous était arrivé.
Ils lui sont tombés à 5 dessus. C'est un miracle qu'il ait survécu.
Tu suis ton traitement ?
J'ai été frappé et laissé pour mort, sans raison.
Un pied devant l'autre. C'est ça, Marc. Empare-toi de la souffrance.
Mais j'ai créé un monde où je peux guérir.
Qu'est-ce que c'est que tout ça ?
Bienvenue à Marwen. C'est mon installation.
Vous êtes artiste ?
C'est une histoire compliquée.
Racontez-moi.
Vous tenez vraiment à savoir ?
Oui.
Ils ont rayé de ma mémoire le moindre de mes souvenirs. Tout ce qui date d'avant l'agression a disparu. Donc c'est à mes poupées de raconter l'histoire. Ce sont les femmes de Marwen. Et elles protègent Marc.
Nous ne faisons qu'un, mon vieux.
T'es méchant.
C'est parti.
Des munitions ! Il nous faut plus de munitions !
J'ai cru vous entendre réclamer... L'addition.
Pas l'addition. Pas l'addition.
Toutes les poupées de Marwen sont des gens que vous connaissez.
Ouais, il y a Anna.
Da.
Da. Julie et...
Ouais.
Carlala.
Tu peux pas continuer à fuir tes problèmes.
Roberta.
Est-ce que tu seras là pour le jugement? Tu dois regarder en face les cons qui t'ont amassé.
Je sais vraiment pas comment je vais faire.
Notre souffrance, c'est notre carburant.
On m'a volé la vie que j'avais avant. Mais je suis toujours là. J'ai l'espoir. Et j'ai ma ville. J'ai mes amis.
On couvre tes arrières.
Je vais m'en sortir. Rien n'est impossible à Marwen.
C'est votre tournée, les filles. Marwen est tellement extraordinaire, il faut que les gens le voient.
À la vie, à l'amour... Et aux femmes de Marwen.
Alors, Welcome to Marwen, hein, si vous avez reconnu un petit peu le film, c'est un film où, encore une fois, on va retrouver Steve Carell, qui joue du coup ce personnage. Alors, c'est un film qui est assez étrange, et plutôt dans le bon sens du terme. Alors, comme je vous l'ai dit, hein, c'est un film qui n'est pas forcément les mieux notés, et pourtant, je l'ai trouvé, pour le coup, assez bon. C'est réalisé par Robert Zemeckis et on suit un homme, donc Marc, interprété par Steve Carell, qui tente de reconstruire sa vie après une agression ultra-violente. Et pour faire face un peu à son traumatisme, il décide de créer un monde miniature Marwen, peuplée de poupées où il rejoue sa vie, ses peurs, ses fantasmes, etc. Donc tu as vraiment tout un grand village avec plein de... Alors c'est pas vraiment des Barbie ou des Action Man, mais c'est un peu des figurines dans le même style, adaptées de personnages qui rencontrent vraiment. Alors dit comme ça, c'est vrai que ça peut paraître un peu absurde, et en vrai de vrai, si je dois être honnête, ça l'est un peu. Mais c'est justement ce mélange qui rend le film très intéressant. Ce qui m'a marqué, c'est surtout cette idée que l'imaginaire devient un refuge, pas un petit truc magique ou idéaliste, mais vraiment un moyen de survie. Le personnage ne guérit pas d'un coup, il bricole, il avance comme il peut, et ce monde de poupées, avec ses batailles, ses mises en scène, sa manière de reprendre le contrôle sur quelque chose qu'il ne comprend plus, et d'ailleurs, les passages stop-motion avec justement ces fameuses figurines animées, etc., sont très sympathiques. Franchement, j'ai adoré. Je trouve que le cinématographiquement parlant, c'est vraiment hyper intéressant d'avoir fait ça. Ça rajoute quelque chose de super, super intéressant, super marrant. Comme je disais, visuellement, c'est assez fou parce que les transitions entre justement le réel et cet univers miniature sont super fluides, presque naturelles. On passe d'un monde à un autre sans vraiment de rupture, comme si tout faisait partie d'un même espace mental. Cet espace mental qui est donc forcément celui de Marc. Et même si ça peut paraître un peu kitsch parfois, y a une vraie intention derrière, c'est pas juste de l'esthétique, ça raconte quelque chose. Après, tout n'est pas parfait, le film a tendance à simplifier certains aspects, à rendre un peu le parcours plus accessible qu'il ne l'est vraiment. Et du coup, ça peut donner une impression un peu édulcorée à un sujet qui mériterait d'aller encore un peu plus loin. Mais reste que y a beaucoup de passages qui sont très touchants, notamment quand il doit passer devant le juge, etc., quand il passe au tribunal. En fait, il y a plein de moments où on sent qu'il n'a pas la force nécessaire pour y aller, et pourtant il essaye, il avance. Il y a une sincérité forte qui se dégage de ce film, une vraie tendresse aussi pour ce personnage, la fragilité, sa manière de tenir debout comme il peut, malgré qu'il soit jugé ou moqué par certains, parce que forcément, on se doute bien qu'un homme qui est, je crois que le personnage doit être dans la trentaine ou la quarantaine, qui joue avec des poupées pour se reconcentrer et pour essayer de guérir de blessures internes, forcément, il y a des personnes dans le film qui ne vont pas forcément comprendre et qui vont un peu le prendre pour un fou ou un peu se moquer de lui. Mais pour le coup, ça reste très touchant, ça reste très intéressant. Parce que Marwen, en fait, Welcome to Marwen, au fond, c'est un film sur un concept, assez, assez universel, en fait. C'est pas juste un mec bizarre avec des poupées, c'est la reconstruction sociale d'un homme. Sur la manière dont chacun trouve un peu ses propres outils pour avancer. Il y en a, c'est le dessin, il y en a, c'est la peinture, il y en a, c'est la musique, il y en a, des fois, c'est les jeux vidéo, ça peut être n'importe quoi. Et lui, sa manière d'avancer, c'est de reconstruire un univers avec ses poupées. Alors même si ces outils paraissent incompréhensibles pour d'autres, c'est les siens. Et rien que pour ça, ça vaut le coup d'être vu. Et je vous propose vraiment, vraiment, vraiment d'aller voir ce film. Il n'y a pas si longtemps, il était encore disponible sur Netflix, donc s'il y a encore foncé, franchement, vous ne le regretterez pas. En tout cas, moi, j'ai adoré. Je sais que ce n'est pas le meilleur film de la planète, mais il est très sympa, et je vous propose, en attendant, qu'on se fasse une petite pause musicale.
Car chez nous le ciel est terne comme je... Ya, laisse tomber. Ya. On se déteste et on s'aime de façon calamiteuse. Car chez nous le ciel est terne comme une station de la ligne 2. Ils comprennent pas nos vies parce qu'ils savent pas ce qu'on a vécu. On pourrait faire des faux sourires, mais même ça on n'y arrive plus. Du raciste qu'on les baise, dit à Lucier qu'on bougera pas. Qui retourne se branler sur des catalogues qu'on fera main. J'ai qu'une équipe, c'est ma famille, je m'en bats les couilles de ce que l'on dit. Je suis venu au monde sans label, sans éditeur, sans maison de disques. Rien dans le porte-monnaie, on avait tout dans le cœur. Papa est un homme honnête, maman est un hustler. sais là d'où je viens. Les voix s'élèvent et l'enseignement s'achève une fois que l'élève dépasse le mètre 80. En fait, la vie nous a frappés en pleine figure, si bien que de fil en aiguille on finit avec des points de suture. On priera le ciel, espérant qu'un miracle vienne. Les hyènes ressentent la tumeur et moi j'ai d'humeur irakienne. J'attends plus rien de personne. C'est pas les beaux discours qui réchauffent quand je frissonne. Si ma pensée profonde avait un intitulé, ça serait qu'ils aillent tous se faire enculer. J'attends plus rien de personne. C'est pas les beaux discours qui réchauffent quand je frissonne. Si ma pensée profonde avait un intitulé, ça serait qu'ils aillent tous se faire enculer. Y'a pas de loi dans ma ville, ils disent que nous sommes faits à l'image de leur dieu. Bien sûr, y'a pas de noir dans la Bible, mais y'a des violeurs à l'église. Dit comme ça, ça paraît fou, mais bon, vu qu'ils ont pas de barbe, je crois que tout le monde s'en bat les couilles. À la base, on était rois, avec de l'or en guise d'habit. Ils sont venus nous piller, tout ça au nom du christianisme. Nos croyances sont pas les nôtres, elles sont juste esclavagistes. Croix de bois, croix de fer, c'est pas pour autant que j'irai au paradis. Débarquer en France, pensant reprendre notre argent, mais on a fait tout l'inverse, on leur en donne bien plus qu'avant. On aurait pu rester au bled, et puis reconstruire l'Afrique, mais on est du père, non du fric, surtout pas du Saint-Esprit. Non, souvent dans le rouge, on traverse les saisons pourpres. 400 ans de cicatrices, mémoire dans la peau comme Jason Bourne. Je bosse pour mon peuple, je m'efforce de leur ouvrir les yeux. Et tu sais comment sont les nègres entre eux. Alors je n'attends plus rien de personne. C'est pas les beaux discours qui réchauffent quand je frissonne. Si ma pensée profonde avait un intitulé, ça serait qu'ils aillent tous se faire enculer. J'attends plus rien de personne, non. Pas les beaux discours qui réchauffent quand je frissonne. Si ma pensée profonde avait un intitulé, ça serait qu'ils aillent tous se faire enculer. Yo, on veut l'enseigne car chez nous y a pas de violence saine. Désaccordé parce qu'on sait pas jouer du piano ni même du violoncelle. On a que notre art de rue comme Luciano. On s'imagine le pire quand on voit passer le scénic. On se fait du mauvais sang comme si on était le sémique. On cherche un job à plein temps, mais on en trouve que dans la rue. Car les agences ne comprennent pas et Bustaflex ne répond plus. Puis les frères finissent pétés, en chien et endetté. 21 juin par jour comme si c'était le solstice d'été. Le daron pensait que je deviendrais pas vu avant le temps. La daronne pensait que je deviendrais pas vu à 20 ans. Capitole, Sony ou Def Jam. Il n'est pas leur esclave. Tu pèses et tu pèses, content que ma rime te plaise. Je suis obscur, je dors que d'un œil comme Jean-Marie Le Pen. On te fait grapper nos carences, nos peines et nos malchances. Qui veut la guerre prépare une avance. Qui veut la paix prépare un no man's land. J'attends plus rien de personne. C'est pas les beaux discours qui réchauffent quand je frissonne. Si ma pensée profonde avait un intitulé, ça serait qu'ils aillent tous se faire enculer. J'attends plus rien de personne. C'est pas les beaux discours qui réchauffent quand je frissonne. Si ma pensée profonde avait un intitulé, ça serait qu'ils aillent tous se faire enculer. Ouais. Qu'ils aillent tous se faire enculer. J'éclaire ma ville.
Et moi, je voulais dire, si vous le permettez, que la France, il faut que la France et son gouvernement sachent que la France elle-même n'intéresse plus les gens pour chercher des visas pour venir ici. Arrêtez d'utiliser l'immigration comme un timbre pour vous faire élire ou vous rester au pouvoir.
Et malheureusement, on arrive à la fin de cette émission cinémaniaque. Alors, pour rappel, hein, n'oubliez pas, il y a... le Ciné-Club Striptease Intégral vendredi 10 à 20h30 et Pluie Noire vendredi 22 mai à 20h30 hein, pour les prochains. Donc n'hésitez pas à bloquer la date pour venir voir ces deux merveilleux films. Nous, on se retrouve en diffusion le vendredi de 21 à 22h, mais vous pouvez également nous retrouver en podcast sur le site de la radio www.radiofl.fr. N'hésitez pas également à nous suivre sur nos réseaux sociaux Facebook, Instagram, X, Deezer, We Love Radio, enfin bref, on est un peu partout. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Cinémaniac sur FL Radio. Bonne soirée.